Radio G 101.5 FM.
A 1, 2, 3, 4.
Le manche disque. L'émission qui tourne. À 33 tours minutes.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue au Manche Disque, une nouvelle fois confinée.
Oui. Voilà.
Une nouvelle fois confinée, mon cher Julien.
Oui, nous évoluerons par contre techniquement. On fait cette émission par le biais de logiciels internet qui nous permettent cette fois-ci de la faire ensemble. C'est quand même.
Voilà. On va dire presque dans les conditions du direct.
Ouais, chacun voilà. Chez soi, mais dans le direct, enfin ensemble, grâce à la magie d'Internet.
Voilà, on s'excuse hein, pour l'émission qui a sauté il y a 15 jours.
On a été pris de court un petit peu.
Bah ouais, un petit peu comme pour le premier confinement. Je crois que le premier lundi qui a suivi, on n'a pas eu le temps de se retourner. Donc à chaque confinement, on fait sauter une émission.
Et puis, dans un premier temps, on a parlé de couvre-feu, ce qui nous aurait permis de les enregistrer en journée pour les diffuser le soir, parce que vous savez bien que nous, hein, c'est le tard le soir que vous nous écoutez. Et puis après, le couvre-feu a fait long feu et maintenant on est confiné, donc là, c'est plus compliqué.
Voilà, mais bon, on est là quand même, on lâche rien, ouais. Et puis on va essayer de continuer malgré tout à faire de la radio de cette façon un petit peu originale. Et puis on va lancer tout de suite l'émission numéro 26 du Manche Disque.
Exactement.
Déjà, et avec de la musique parce que on est là pour ça quand même. Hein.
C'est bien, c'est vrai de le dire. On est là pour ça.
I'm not
Eh bien, c'était White Lightning, un groupe de Minneapolis, avec le morceau qui s'appelait Under Screaming Double Eagle. Alors, ça vient de Brown Acid, le 9e trip. Je vous avais passé un morceau du 10e trip, cette sélection en 10, bientôt 11 volumes de rock psyché post-Altamont. Donc là, on est sur donc le volume 9, et ce groupe donc était de Minneapolis, dans le Minnesota, et ça a été un des premiers groupes à vraiment explorer, on va dire, la musique rock'n'roll avec ces outils-là, avec ce son-là bien heavy. Et le morceau date de 1969. Donc toujours dans cette compile, hein, je vous avais dit que j'en passerai assez régulièrement. Donc je vais faire au moins un morceau de chaque compilation par émission. Donc il y en aura encore 9 autres.
Et oui, c'est bien, Julien, tu tiens tes promesses pour notre plus grand plaisir.
Voilà.
C'est cool. Prochaine émission, donc prochain morceau de cette série de compiles, alors.
Je vais recevoir le 11, mais sinon, je le glisserai le 11, mais je vais en ordre décroissant et je remonte à la source de ces compilations.
Ah ben, impeccable. Eh ben, moi, je vais enchaîner avec un morceau de 1969 d'un groupe qui s'appelle Renaissance. Je ne sais pas si tu connais Renaissance, Julien.
De nom, ça me dit quelque chose.
Ben, Renaissance, c'est un projet en fait assez original, un projet qui mélange un peu la musique classique, le rock, le folk. Enfin, c'est assez atypique. Vous allez l'entendre tout à l'heure. C'est notamment dans Renaissance, à l'origine, en tout cas, il y a deux anciens Yardbirds. Il y a Keith Relf et Jim McCarty. Donc bon, ça n'a rien à voir trop avec les Yardbirds, hein, mais en tout cas c'est les mêmes personnes qui sont à l'origine. Donc c'est un groupe qui a enregistré en fait en 69 un premier album éponyme qui s'appelle donc Renaissance, et qui s'est un petit peu délité, même beaucoup, lors de l'enregistrement de son deuxième album Illusion. Ça s'est délité. Il y a eu beaucoup de formations différentes, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, et quand même un fait assez marquant, c'est que Keith Relf, il est mort électrocuté sur scène.
D'accord, ouais, je vois.
Parce qu'il avait pas branché son ampli à terre. Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'avait pas branché. En tout cas, le système électrique était foireux. Et le gars, en fait, il s'est électrocuté en jouant de la gratte sur scène. Donc bon, on peut dire que ça peut être une belle mort pour un musicien, mais enfin quand même, humainement, ça reste quand même assez con. C'était juste pour la petite anecdote un peu atypique, hein. Mais ça a certainement participé d'ailleurs au traumatisme qui a fait éclater le groupe et plein de fois. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je vous passe un morceau qui va vous montrer un peu ce côté un peu baroque, très atypique. Il s'appelle Wanderer, donc issu donc du premier album le plus à succès de Renaissance, donc de 1969.
5, l'émission Le Manche Disque, dans des circonstances un peu particulières de confinement que nous évoquions. Et là, nous venons d'écouter. Alors, moi, je vous ai préparé une petite sélection. En fait, j'ai pas eu le temps de l'annoncer au moment du premier morceau, mais un petit peu énervé, un petit peu électrique, un petit peu heavy, on va dire. Et je me suis dit, mais je vais pas aller taper que dans les Brown Acid, etc. On va essayer de faire un petit tour du monde. Et là, je suis allé chercher en Indonésie, croyez-le ou pas, je vous ai passé un morceau d'un groupe qui s'appelle Pambers et dont le titre est High. Donc c'est un morceau qui est issu d'une compilation qui est franchement indispensable pour tous ceux qui aiment le rock and roll un petit peu hard, psychédélique, voire progressif. Ça s'appelle Those Choking Checking Days. Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk 1970-1978, et c'est chez Now Again. Et en fait, c'est un triple LP, c'est une sélection du tonnerre de tout ce rock indonésien qui, alors on peut pas dire qu'il était à la pointe, parce qu'il y a effectivement quelques années de décalage avec la culture anglo-saxonne, avec l'Amérique, avec l'Angleterre, mais très rapidement, en fait, ces mouvements de rock un petit peu dur ont trouvé un terreau extrêmement favorable dans cette Indonésie, pourtant dirigée par Suharto, je crois, donc un petit peu dictatorial quand même. Et là, on a ce triple vinyle vraiment de morceaux complètement hallucinants et extrêmement surprenants, et ça vaut vraiment le détour. À savoir que, alors, sur la première édition de cette très belle compilation, il y avait un livret papier, et peut-être pour faire des économies ou autre, ce livret, il est devenu ensuite, dans l'édition que j'ai, à télécharger. Donc je vous aurais bien parlé avec détail de Pambers, mais là je ne retrouve plus mon fichier à télécharger. Je l'ai quelque part dans mon ordi, sauf que c'est le bordel, il est sur une clé ou je sais pas, voilà, je suis un petit
c'est pas grave, c'est les aléas du presque direct, c'est pas grave,
aléas du presque direct, donc
c'est pour ça qu'on fait ça comme ça quand même.
Ben voilà, exactement. Voilà. Et donc, ben, bon. Je m'engage à le retrouver quand même. Ouais. À l'occasion d'un autre morceau, parce que ben, c'est un triple vinyle hein, rempli à ras la gueule de très bons morceaux de rock indonésien. Et ben, je reviendrai peut-être sur Pembers et sur l'autre groupe dont je vous passerai un ou d'autres morceaux.
Yes. Alors petit clin d'œil au passage à No Again Records hein, que tu as cité donc pour cette l'édition de cette compile, un superbe ouais. label. Oui. Label fondé par Eoten Alapat qui est aussi à l'origine de la réédition de ce que j'ai passé moi notre dernière émission le Witch Introduction, le morceau de justement d'introduction de l'émission. Donc ils ont vraiment une super sélection de petites pépites du monde entier qu'ils rééditent pour notre plus grand bonheur. Ça les rend accessibles. C'est souvent des disques dont les versions originales sont hyper chères parce que très rares de voilà parce que c'est des petites pépites de pays très très peu on va dire inclus dans la culture occidentale.
Moi on est sur des petits 45 tours un peu obscurs où ils sur place les récupérer quoi. Donc
des petites productions quoi avec les moyens du bord souvent et bravo Now Again parce que du coup ils déterrent un petit peu tout ça et ils nous font des disques accessibles à des prix accessibles et de bonne qualité donc c'est vraiment un label qu'il faut noter sur son petit calepin et il faut aller fouiller dans le catalogue parce que c'est passionnant. Écoute, moi je vais t'emboîter le pas un petit peu, Julien, avec les. Tu disais que tu voulais des trucs un petit peu puissants et énervés.
Ouais.
Moi, ça va être beaucoup plus proche de nous et en temps et en culture, hein, puisque je vais passer un morceau des Smashing Pumpkins, qui est issu de leur album, enfin que moi je considère comme leur chef-d'œuvre et que beaucoup aussi considèrent comme leur chef-d'œuvre. Bien sûr, je parle de Melancholy and the Infinite Sadness, qui est sorti en 1995 et qui fait le bonheur des collectionneurs de vinyle parce que depuis 95 cet album je me souviens plus d'ailleurs sous quelle forme en vinyle original il était sorti, peut-être en triple LP si je ne m'abuse, à vérifier, mais en tout cas depuis il a été édité dans des coffrets absolument magnifiques, des coffrets cartonnés avec toute l'illustration propre à cet album là cette espèce de concept album un peu fantasy lunaire superbe.
Dans le clip c'était un peu à la Méliès là avec des sélénites, enfin les habitants de la lune, etc.
Je crois que c'est il y avait un titre effectivement dans le clip, c'était un petit peu comme ça, je me souviens plus exactement le même, je crois que c'est Tonight je crois, mais j'en suis pas sûr, ça aussi ce sera à vérifier. En tout cas dans le coffret maintenant c'est il y a quatre vinyles, parfois cinq même, ça dépend des éditions. Il y a eu beaucoup de bootleg aussi hein, de ce coffret, donc il est très très contrefait, donc ça aussi c'est à vérifier. Il y a aussi un livret qui explique un peu le process un peu créatif du groupe, enfin les sous-pochettes sont absolument magnifiques, toujours dans le même thème des illustrations, enfin c'est vraiment un très bel objet. Alors après il coûte un petit peu cher ce coffret puisqu'on est quand même dans une moyenne entre 120 et 150 euros, donc c'est sûr que c'est un budget, mais enfin bon voilà, c'est quelque chose qui si faut aimer l'album, faut aimer les Smashing Pumpkins, faut aimer le rock des années 90 parce que c'est quand même une pièce maîtresse pour moi du rock des années 90, en tout cas tel qu'on l'a traversé. Ce truc là est arrivé un peu comme une bombe et a fait grand bruit. Voilà, donc je vous ai sélectionné donc un morceau qui s'appelle Love, qui va bien illustrer je pense ce que les Smashing Pumpkins ont apporté, en tout cas leur pierre à l'édifice du rock avec cet album là puisque c'est un morceau que j'adore parce que il est truffé d'effets en tout genre, de mélodies toujours hyper soignées à la Smashing Pumpkins quoi, et puis sans lâcher le côté aussi puissance, les marqueurs rock très importants, parce que dans l'album il est assez hétérogène cet album-là. Il y a beaucoup de ballades aussi très très belles, beaucoup de mélodies, beaucoup d'envolées presque classiques, mais il y a toujours pour conserver son identité, des morceaux qui envoient du bois. Voilà. Donc Love, c'est un petit peu un mix de tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi et je vous propose de l'écouter tout de suite.
maintenant, je vous propose de remonter un petit peu le temps et d'aller du côté de la perfide Albion, puisque j'ai envie de vous passer coup sur coup deux morceaux de deux groupes emblématiques de la fin des années 60 en Angleterre. Je veux parler non pas des Rolling Stones et des Beatles, ce serait un peu trop facile, mais de Cream et de Taste. Je vais vous passer d'abord un morceau de Cream et même un morceau de Fresh Cream, puisqu'il s'agit de leur premier album éponyme datant de 1966. Alors Fresh Cream, c'est un trio, un power trio comme on les appelle, composé de Eric Clapton à la guitare et au chant, de Jack Bruce à la basse, à l'harmonica et au chant, et de Ginger Baker à la batterie et au chant. Ginger Baker qui nous a quitté il y a peu, et Jack Bruce qui nous a quitté il y a un petit peu plus longtemps, je crois. Donc c'est une sorte de un des premiers super groupes de l'histoire, puisque chacun vivait un petit peu sa vie dans son coin et dans ses formations respectives avant de se rejoindre le temps d'un groupe assez éphémère, hein, puisque là comme je suis chez moi, je vais cliquer vite fait sur l'ordi et je vois que effectivement Cream a été actif de 66 à 68, donc 2 ans d'activité, avec voilà quelques réunions après par la suite, mais ça ne compte pas vraiment. Donc assez peu d'albums, et là je vous propose un morceau du premier album, donc qui marque un petit peu, qui montre un petit peu quelle est la couleur, puisque Cream se voulait être un groupe de blues rock voilà amplifié comme il se doit, et je vous propose d'écouter Rolling and Tumbling de Muddy Waters, une composition de Muddy Waters par Cream. Hey!
Le manche-disque. Same old story.
Old story. I can't believe. Same old story. But you wanna leave. Without you, it's a nightmare of the air is chill. Get a next way home. Your face, no one can fill. There'll be the same old story. Yes, it will. Hey.
Je vous en avais parlé très très brièvement en annonçant juste le groupe, c'était Taste. Eh bien, c'était bien ça, c'est Taste avec le morceau Same Old Story. Donc Same Old Story, c'est un morceau de leur album Taste, éponyme là encore, qui date lui de 1969. Alors Taste, c'est un groupe de rock irlandais formé en 66 à Cork en Irlande et qui est particulièrement connu pour avoir eu comme membre fondateur le guitariste Rory Gallagher. Et je les ai liés un petit peu tous les deux parce que voilà, on est un petit peu sur les mêmes eaux. Le même style. Et Taste, c'est le groupe qui a ouvert le concert d'adieu de Cream, partageant l'affiche avec Yes le 26 novembre 1968. Donc voilà. Et alors, si vous aimez un peu ce rock un peu heavy blues, foncez sur au moins les deux premiers albums de Cream, Fresh Cream et Disraeli Gears, et foncez aussi sur les deux premiers albums de Taste, qui s'appellent donc Taste, et On the Boards, qui est sorti l'année d'après. Franchement, vous ne serez pas déçus.
Ok, eh ben, on a, enfin moi en tout cas, je vais me pencher sur la question parce que tu as piqué ma curiosité, sachant que j'aime beaucoup cet univers musical, donc effectivement c'est toujours quelque chose de passionnant. Mais je vais me permettre par contre de changer un petit peu de registre, hein, parce qu'on a passé beaucoup de rock, je trouve, dans ce début d'émission.
C'est très très rock, ouais. Mais bon, moi c'est très très rock. Je voulais un petit peu exprimer ma rage du confinement en choisissant un peu électrique, un peu voilà, un peu péchu, quoi.
Ah ben c'est bien, on fait de cette émission une œuvre artistique d'expression, donc c'est parfait, c'est aussi ça la musique.
Artistique aussi un peu. Hein.
Voilà, mais je vais faire exister quand même un petit peu d'autres styles de musique, hein, dans cette émission. Donc si tu veux continuer à exprimer ta rage de rock, il y a aucun souci, tu y reviendras tout à l'heure. Moi je vais vous présenter un morceau qui est issu d'un disque que j'ai acheté lors de la précédente édition du Discardé. Vous savez, cette édition un petit peu particulière en plusieurs fois, et donc je me suis procuré ce disque de Camille Yardbrough, de 1975, qui s'appelle The Iron Pot Cooker, qui est je crois, hein, son seul album, puisque c'est une artiste qui n'a pas beaucoup prospéré artistiquement, même si cet album a été salué. C'est un album assez engagé, un petit peu sans concession quand même au niveau du commercial. Il y a beaucoup de moments qui sont des moments parlés, qui sont des moments joués avec juste des ambiances musicales derrière, parce que je pense que c'est un album qui se voulait vraiment être un message qui parle la condition. Oui, je pense que c'est très conceptuel, et puis ça parle, je pense, de façon assez artistique, on va dire, en tout cas théâtralisée, et ben de la condition noire américaine et de ce qui pouvait se passer pendant les années 70 dans ce pays-là. Donc voilà, c'est un album qui a une importance historique et qui a aussi une qualité, hein, intéressante, mais qui peut-être est moins accrocheur que d'autres succès qui ont pu beaucoup plus se vendre et du coup faire la renommée d'autres chanteuses dans les années 70 aux États-Unis. Pour autant, je vais vous passer à un morceau qui s'appelle Take Your Praise, que peut-être certains reconnaîtront comme étant un sample qui avait été utilisé il y a quelques années maintenant, donc ça ne nous rajeunit pas non plus, par Fatboy Slim dans un morceau un peu techno house. Enfin, je sais pas trop comment qualifier le style de Fatboy Slim. Je suis pas un spécialiste de la musique électronique, mais en tout cas c'est passé très 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 souvent à la radio à l'époque, et en réécoutant cette version originale, ben voilà, on retrouve le petit groove black music, mais le refrain en tout cas nous paraît familier. Donc je vous propose d'écouter tout de suite ce Take Your Praise de Camille Yardbrough.
We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling, thinking man. And anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can. You're so rare, you're so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare and so fine. You clear the questions from my mind. I was afraid to say I love you, afraid to take, too eager to give. You help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know, I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure not glad you're mine.
turn to whisper. You make my whisper turn to call. You make me scream and scream that I love you. When you make me rise and fall. You're so rare and you're so fine, and I'm so very, very, very glad you're mine. You're so rare, so fine. Oh, oh, you're mine, you're mine. You know I want the best for you, baby. Mm-hmm. And what you want, we can work together, baby, to see it. Day to celebrate you, baby, 'cause I have to stop and praise you like I should. You're so rare, take your praise, and you're so fine, and I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare, take your praise, you're so fine.
Le manche disque.
Je veux pour aller.
Vous c'est pas sans doute pour aller.
Et oui, par qui on a mal jeté.
Pena que eu queria te dizer.
Que você é linda, mas o que eu queria é mais te conhecer.
Dar meu telefone para você.
Fui pro meu assento.
Sur le manche disque Radio G 101.5 FM, on écoutait un morceau de Marcos Valle, mais pas n'importe quel morceau de Marcos Valle. Le morceau s'appelle Viajando por ahí, ou je sais pas comment faut le dire à la brésilienne. C'est issu de la compilation Jazz is Dead numéro 3 qui est paru vraiment très très récemment. Jazz is Dead, donc c'est ce projet jazz de Adrian Young et Ali Mohamed, Ali Saïd Mohamed, qui ont décidé de remettre un petit peu au goût du jour des grands artistes jazz, et voire un petit peu plus large, hein, parce que Marco Valle c'est plus c'est jazz, mais c'est aussi très bossa nova, tout ça. En témoigne le titre qu'on vient d'écouter. Et donc voilà, c'est une collection que je ne peux que vous conseiller. essayer. Moi, j'ai déjà eu les trois premiers et on attend avec impatience la sortie du quatrième que j'ai déjà précommandé, qui mettra à l'honneur un autre groupe brésilien qui s'appelle Azimut. Voilà.
D'accord.
Donc, je te laisse la parole, mon cher Julien, pour un prochain morceau.
Eh ben, écoute, oui, tout à fait. Donc, je reste dans le rock, hein, puisque je vais vous proposer un morceau d'un jeune homme australien qui s'appelle Creepy John Thomas. Alors, Creepy John Thomas, c'est un groupe qui porte le nom de son leader, on va dire John Thomas, qui s'est rajouté un petit creepy devant à la manière un peu des fois des bluesmen comme Lightning Hopkins ou d'autres. Hein. C'est un groupe qui s'est formé en 69 et qui s'est séparé en 75. Alors c'était pas en australien, lui il est australien mais il a beaucoup voyagé. C'est un monsieur qu'on retrouve par la suite donc au Royaume-Uni, à Londres, à Berlin et même à Cologne puisque il a travaillé par la suite. Alors d'abord quand il était en Angleterre avec le Edgar Broughton Band, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous passer un ou deux très très bons morceaux, et ensuite à Cologne, puisqu'il a travaillé avec Eurythmics dans le studio de Connie Planks. Le fameux Connie Plank dont nous saluons la mémoire. Et d'ailleurs, petite anecdote, puisque j'ai partagé là sur mon Facebook une interview du bonhomme assez récente et je ferai le relais sur la page du Mans Disque si vous voulez en savoir plus sur Creepy John Thomas. Il évoque un épisode quand il était chez Connie Plank assez cocasse, puisque il s'appelle pas Creepy pour rien, hein, puisqu'il avait vraiment le look de hippie, quoi, les cheveux longs, la moustache, les habits un petit peu hétéroclites indiens, machin, etc., avec des petits points, des franges, des trucs, une ceinture en cuir de serpent, une dentition assez déplorable. Et donc il était là-bas donc à Cologne exactement au même moment que la bande à Bader, je crois, qui s'était réfugiée dans le coin. Et en fait, chez Connie Plank, il y a eu une descente de l'équivalent du GIGN allemand qui cherchait les terroristes d'extrême gauche allemand. Et ils ont repéré la tronche de Creepy John Thomas et ils l'ont pas limite mis en joue, mais presque. Et puis quand ils ont vu qu'il parlait très très mal allemand, qu'il était paniqué, que c'était pas lui, ils sont partis en s'excusant et en laissant, en ne faisant pas du tout attention à l'énorme quantité de drogues diverses qu'il y avait sur la petite table du salon. Donc voilà, ils ont eu un petit peu chaud, mais c'était pas ce que les mecs de la police cherchaient. Donc voilà, cette petite anecdote qu'il raconte dans une interview, donc je vous invite à lire et que je vais tout de suite aller partager sur la page du Mans Disque. Donc là, c'est son album, le premier, hein, Creepy John Thomas, album éponyme, qui date de 69, si je ne dis pas de bêtises. Et je vous propose vraiment le premier morceau, l'entrée en matière, puisque c'est le premier morceau de la face A, qui s'appelle Gut Runs Great Stone.
Est-ce qu'on peut espérer à l'écoute avoir quelques petites vapeurs de stupéfiants par procuration?
Avec modération, je sais pas. Oui, probablement quand même.
Allez, tripon.
I'll tell you about
Eh bien, le temps passe vite puisqu'il va être le temps justement de nous écouter un dernier morceau avant de nous retrouver dans 15 jours, même heure, même station, même podcast pour les retardataires ou ceux qui habitent un petit peu trop loin pour capter Radio Lé 101.5 FM.
Yes, et donc je trouvais que cette émission manquait un petit peu de pop, donc quoi de mieux pour la pop que le King of Pop, Michael Jackson. Et donc je finis ce morceau, enfin cette émission pardon, avec le morceau issu de l'album Bad de 1987, qui pour la petite anecdote devait être l'album de la collaboration entre Michael Jackson et Prince, puisque le titre même Bad que tout le monde connaît devait être chanté par les deux artistes. Mais le problème, c'est que quand Michael Jackson a fait la présentation de ce morceau à Prince, Prince a regardé les paroles qui commençaient par le fameux Your butt is mine, qui veut dire en gros ton cul est à moi. Et Prince, dans une interview, a dit qu'il a rappelé Michael Jackson en disant écoute, je voudrais savoir qui doit chanter cette phrase à qui, parce que il y a pas moyen que tu chantes cette phrase à moi. Et moi, je ne la chanterai pas à toi. Donc, on a un problème. Salut, au revoir. Et donc, ça ne s'est pas fait. À cause de cette phrase-là, à cause de à cause de ce lyrique que Prince ne voulait pas assumer. Et donc, Michael Jackson, il s'est dit, je vais devoir trouver un autre featuring intéressant à faire sur un autre morceau. Et donc, écoutez, voilà, je sais bien quand on s'appelle Michael Jackson, parce que quand Prince ferme la porte, on peut faire un duo avec Stevie Wonder, voilà, comme ça.
Oui.
Le plan B de luxe. Et donc, sur cet album, il y a un morceau qui est pas trop connu en tout cas, qui fait pas partie des morceaux les plus écoutés de cet album là mais qui est très très bien, qui est un titre de collaboration quand même de Michael Jackson avec Stevie Wonder, qui s'appelle Just Good Friends, et que je vous propose d'écouter en clôture de cette émission en gardant en tête la petite anecdote entre Michael Jackson et Prince.
Oui, mais alors,
assez savoureuse.
Et donc là, en écoutant, on va pouvoir savoir qui de Stevie ou de Michael dit ça à l'autre. Alors
c'est pas le même titre. Finalement, le titre Bad de Michael Jackson a été chanté en solo par Michael Jackson lui-même. Et du coup, parce qu'il fallait, je pense, pour des raisons de commercial, trouver un, ou alors peut-être que c'était prévu depuis le début et je suis mauvaise langue. Mais en fait, il fallait avoir un featuring. Moi, je l'interprète comme ça. Et un featuring si possible un peu prestigieux. Et donc, il y a eu ce duo avec Stevie Wonder. Mais le morceau n'a rien à voir. Voilà. Peut-être que Stevie Wonder a aussi refusé de le chanter, hein, ce qui est possible. Allez, salut tout le monde. Et puis, à dans 15 jours, dans les mêmes conditions, on lâche rien. Ciao.